Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute! Les villes et l'espace public en général ne sont ni écologiques ni féministes. Les noms de rues, les noms de places sont quasi exclusivement des noms masculins. Les transports publics aujourd'hui sont régulièrement des lieux de violences sexistes et sexuelles. Et de nombreuses femmes ne se sentent pas en sécurité quand elles se promènent seules dans les rues ou quand elles rentrent la nuit chez elles. Clairement, l'espace public urbain n'est pas perçu et vécu de la même manière par les hommes et par les femmes. On peut dire que les villes sont donc bien genrées. Et même si l'espace public est le premier espace commun que l'on partage entre hommes et femmes, les femmes ont encore du mal à y trouver leur place. Historiquement, la ville a été pensée par des hommes, des géographes, des urbanistes, des architectes. Et même si on peut noter des efforts et de louables intentions, dans la réalité, les inégalités de genre demeurent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Inès de Parisot. Donc bonjour Inès.
Bonjour.
On est ravis de t'accueillir. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes?
Oui, dans un premier temps, merci de me donner la parole. Donc moi je m'appelle Inès, je suis urbaniste et en fait j'ai fait une partie de mes études en France et l'autre partie au Québec à Montréal. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert en fait une autre approche un peu de la fabrique urbaine qui est... Je connaissais pas en fait en arrivant à Montréal parce que c'était quand même quelque chose qui est très peu développé en dehors des pays anglo-saxons. Donc ça s'appelle le design urbain. En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu frustrée de la manière assez traditionnelle de faire la ville, c'est-à-dire avec des très gros projets urbains qui sont généralement assez coûteux, qui mettent beaucoup de temps en fait à sortir de terre et qui prennent très peu en compte les besoins des futurs utilisateurs, donc des citoyens. Et à partir de là, dans tout mon parcours universitaire et professionnel, j'ai commencé un petit peu plus à creuser la question du design urbain, d'incorporer cette approche-là dans ma pratique et aujourd'hui j'en ai fait mon métier.
Est-ce que tu peux nous partager un petit peu du coup quelques notions de ce métier, enfin qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ce métier, et savoir aussi la propension de femmes qui font ce métier?
Oui. Le design urbain, c'est une pratique, c'est une approche qui est un peu plus centrée sur l'expérience des usagers dans l'espace urbain. Le designer urbain, il va avoir pour mission, en gros, de réenchanter puis d'améliorer l'expérience des usagers dans la ville. Il va adopter une approche beaucoup plus sensible du territoire, c'est-à-dire qu'il va vraiment aller sur le terrain, partir à la rencontre des usagers. Donc il va essayer de comprendre un peu et de cerner leurs besoins et puis aussi de voir un petit peu comment ils interagissent à la fois avec leur environnement puis aussi entre eux. Et la finalité en fait du travail du designer urbain, c'est de proposer une ou plusieurs solutions qui vont répondre de manière parfaitement adéquate en fait aux besoins des usagers. Maintenant, pour ce qui est de la question de la proportion des femmes qui exercent ce métier, j'en ai aucune idée parce que je pense que c'est une approche qui est assez peu connue pour l'instant en France. Moi, à l'époque, quand j'étais à Montréal, c'était quand même quelque chose qui était beaucoup plus on va dire commun. Okay. Après, je n'ai aucune idée de savoir s'il y a plus de femmes qui ont adopté cette pratique ou non, je ne sais pas.
Écoute, merci Inès pour cette première définition en tout cas de ton métier, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'usager, l'utilisateur final est pris en compte et au cœur finalement de la pratique dans ce sens-là, donc ça c'est chouette. Et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux aussi nous expliquer, selon toi, ce qu'on entend finalement par espace public, espace urbain, et peut-être la différence avec l'espace public rural, s'il y a des différences à prendre en compte, ou alors avec l'espace privé, pour qu'on soit sûr de bien comprendre le sujet?
Oui, alors... ce qu'on entend quand on parle d'espace public urbain, c'est l'ensemble des lieux qui sont accessibles de manière gratuite et égale en fait pour tous ceux qui vont pratiquer la ville. Donc, en définition, c'est un bien commun. C'est un espace dans lequel on est tous supposés avoir les mêmes droits, un espace qu'on peut tous s'approprier, puis un espace qu'on peut tous pratiquer en fait. Par exemple, ça peut être une rue, un parvis, un jardin, un boulevard, tout ça. En fait, c'est tous les espaces qui vont permettre le libre mouvement de chacun dans le respect de cette double, à la fois accessibilité et gratuité. Donc, je pense que ça, c'est les deux notions les plus importantes pour définir l'espace public urbain, même l'espace public en général d'ailleurs. Et la différence avec l'espace privé, c'est que l'espace privé, par exemple, il n'est pas ouvert à tous, contrairement à l'espace public.
On se demandait aussi si tu avais des infos peut-être à nous partager sur finalement comment et pourquoi ont été créées les villes, finalement d'où ça vient, les villes, parce que on imagine plutôt dans l'imaginaire l'aspect très rural, paysan, il y a fort longtemps, et peut-être qu'est-ce qui a amené à la création des villes et à cet espace public.
Je pense que les villes ont déjà été créées pour tout ce qui est en rapport avec le travail. Les gens travaillent en ville, les gens ont beaucoup déjà travaillé en ville, même il y a longtemps, ils travaillaient en ville. Je pense que les gens ont aussi eu envie de se rapprocher peut-être des lieux de travail, donc ils ont commencé à s'installer aussi proche de leur lieu de travail. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de citadins et qu'il y a peut-être moins de monde qui est attiré en fait par le rural. C'est qu'on veut réduire les distances domicile-travail. Donc je pense que les villes ont grossi un petit peu aussi comme ça.
Peut-être que c'est lié finalement à la concentration du travail dans des espaces, c'est plutôt dense et concentré au même endroit. Et donc, du coup, les gens se rapprochent effectivement des... donc c'est intéressant aussi.
Et puis, on a tous les services aussi. Y a une question de densité. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même... Il y a beaucoup plus... il y a un meilleur accès à certains services en ville que dans les campagnes. Quand on le voit, il y a beaucoup moins de médecins maintenant qui vont s'installer dans les milieux ruraux. Donc, c'est quand même... On veut avoir accès à tous ces services-là. Donc, je pense que les gens... Je ne veux pas dire qu'ils ont une préférence pour la ville, mais c'est quand même le côté pratique aussi.
Et alors, maintenant qu'on a compris un peu de quoi on parlait, on avait envie de faire avec toi un petit état des lieux, des inégalités en fait femmes-hommes qu'on peut rencontrer dans l'espace public urbain, parce que c'est le sujet de l'épisode. Est-ce que toi, tu as des... tu peux nous expliquer un petit peu, selon toi, quelles sont ces inégalités-là, déjà, qu'on rencontre dans l'espace public urbain?
Oui. comme je disais tout à l'heure, l'espace public urbain, c'est un lieu qui est censé être ouvert à tous, accessible à tous, qu'on peut tous s'approprier. Le problème, c'est que dans la réalité, c'est pas vraiment le cas. Dans le sens où l'espace public urbain, il est pas neutre, il est genré. Même la ville, en général, on peut dire qu'elle est genrée. Et elle est genrée, en fait, à la fois dans sa conception, puis dans ses usages. Par exemple, dans sa conception, on sait que, vous l'avez dit un petit peu au début, c'est que la ville a longtemps été, pendant très longtemps d'ailleurs, conçue par des hommes, pour des hommes. Et en fait, les femmes ont vraiment été éloignées, tenues à l'écart de tous les métiers de la fabrique urbaine. C'est seulement depuis, je crois, les années 70 que les femmes peuvent intégrer les écoles d'architecture. Donc, c'est les écoles qui forment quand même au métier de l'urbanisme et de la fabrique urbaine en général. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à 1970, je crois que c'est 1968 d'ailleurs la date, jusqu'à cette date-là, elles pouvaient quand même exercer des métiers de la fabrique urbaine, mais elles avaient des postes qui étaient peut-être avec très peu de responsabilités, puis au final elles avaient très peu de poids en fait dans les décisions. Donc il y a quand même cette question, il y a un certain héritage en fait du passé, dans le sens où les espaces publics qu'on va pratiquer aujourd'hui, peut-être pas tous, mais une bonne partie, c'est le résultat de certaines décisions qui ont été prises par des hommes, puis il y a quand même un certain nombre d'années. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, quand je dis que l'espace public est genré dans les usages, c'est qu'en fait, il y a un accès et des usages qui sont différenciés en fonction de si on est un homme ou une femme. Par exemple, il y a des espaces urbains, des espaces publics urbains qui sont beaucoup plus occupés, fréquentés et appropriés par des hommes. D'autres par des femmes. Par exemple, si on regarde les devantures d'école, si on regarde les aires de jeux pour enfants, on remarque qu'il y a une surreprésentation de la femme dans ces espaces-là. Et à l'inverse, on peut regarder par exemple les espaces, les équipements sportifs en extérieur, en libre accès, on voit que c'est majoritairement occupé par des hommes. Donc il y a cette question-là. Après, on peut pas, les femmes occupent l'espace public, on ne peut pas dire qu'elles l'occupent pas. Elles l'occupent juste différemment, elles se l'approprient aussi différemment. On va dire que les hommes, ils l'occupent beaucoup plus pour des raisons, en tout cas pour des loisirs, pour de la détente, pour la flânerie. Puis les femmes, c'est plus parce qu'elles vont gérer les fonctions d'accompagnement, elles vont gérer les enfants, elles vont peut-être s'occuper des courses aussi. Donc il y a une différenciation dans la manière d'occuper l'espace.
Ouais, et à ce propos, j'ai entendu une phrase que j'ai trouvée très juste et qui fait un peu écho à ce que tu viens de dire. C'était du think tank Jean Réville. Je sais plus quelle personne disait dans l'espace public, les hommes occupent l'espace public et les femmes s'y occupent. Mmh. Donc, bon, voilà, ça résume un petit peu ce que tu viens de dire.
Ça dit beaucoup de choses.
Voilà, je trouve très juste.
C'est effectivement un bon résumé de cette idée-là. Ok, et du coup, dans les inégalités femmes-hommes qu'on peut retrouver dans l'espace urbain, nous, il y avait un sujet quand même qui nous avait interpellé parce que beaucoup de femmes, si ce n'est toutes, l'ont vécu, malheureusement, expérimenté à différents degrés. Mais en fait, on avait envie de parler un petit peu avec toi du harcèlement de rue et aussi dans les transports en commun, finalement. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont expérimenté donc du harcèlement dans la rue ou dans les transports en commun et que du coup ça génère aussi un sentiment d'insécurité. Et on voulait voir si tu pouvais nous expliquer un petit peu selon toi d'où ça vient, comment en fait on peut expliquer que les femmes subissent ces violences-là, ces agressions, et l'inverse non. Enfin voilà.
Bah, je pense que effectivement, ces phénomènes-là, en fait, c'est des phénomènes qui concernent beaucoup plus les femmes que les hommes. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'on s'est retrouvé dans ce genre de situation où on s'est retrouvé mal à l'aise dans l'espace public ou en situation d'insécurité, ou qu'on a même subi du harcèlement, par exemple, dans les transports en commun. C'est quand même très très fréquent si on regarde autour de nous aujourd'hui. Après, je pense que la raison pour laquelle les femmes sont plus concernées que les hommes par ces phénomènes-là, c'est que, bah, comme je le disais un peu plus tôt, l'espace public a longtemps été conçu par des hommes, pour des hommes, pour des centres d'intérêt masculins, ce qui fait que on n'a jamais vraiment pris en compte les besoins des femmes, leurs préoccupations quotidiennes, par exemple, pour concevoir ces espaces publics. Et ce qui fait qu'elles ont vraiment eu du mal à se l'approprier. En fait, elles réussissent pas à s'approprier un espace qui leur est pas forcément destiné. Donc finalement, elles décident de déserter un peu ces espaces publics, ce qui fait qu'on a des espaces publics où il y a beaucoup plus d'hommes. Et une fois que les femmes fréquentent ces espaces publics-là, bah, ça fait que elles se sentent pas forcément à l'aise, puis il y a ce sentiment d'insécurité qui va naître, et puis des situations un petit peu plus dramatiques, comme par exemple le harcèlement.
Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu dans tout ce qu'on nous a appris, dans la représentation sociale qu'on se fait, en fait, de l'espace urbain? Et par exemple, les filles, dès toutes petites, on leur dit « fais attention, rentre pas seule le soir, rentre pas tard la nuit ». On nous a mis dans notre tête, en fait, des plus jeunes âges, que l'espace public était dangereux pour nous.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un peu le poids, finalement, des inégalités toutes petites qu'on fait peser sur nos épaules?
Bah, je pense que ce discours-là participe grandement, en fait, à la construction de ces inégalités. Puis, c'est sûr que les petites filles, on grandit avec cette idée-là qu'il faut qu'on se méfie un petit peu de la rue. Il faut qu'on se méfie de l'espace public en général, de la nuit, il faut qu'on fasse attention à nos tenues, au trajet qu'on va emprunter. Enfin, on grandit en fait avec cette idée-là, et puis au final on sait que plus tard cette peur elle est ancrée. Donc finalement on va être méfiante à chaque fois qu'on va descendre dans la rue, à n'importe quelle heure de la journée, plus la nuit effectivement, parce que je pense que ces problèmes-là, ces inégalités-là sont beaucoup plus perceptibles la nuit que le jour, mais c'est sûr qu'il y a un problème au niveau de l'éducation. Hein.
Et du coup, si on reste au niveau de l'éducation et des plus jeunes, j'avais une question sur sur les cours d'école, les cours de récréation, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours choquée. On voit que dans les cours de récréation, les petits garçons sont généralement plus présents au centre des cours, à jouer au ballon, au foot, etc. Et les petites filles se retrouvent aux abords des cours, à raser les murs pour ne pas se prendre une balle perdue. Donc c'est vrai que dès l'enfance, on se dit, mince, les inégalités, elles commencent déjà là. C'est assez... assez probant, et au même titre que la nature, parce que finalement il y a dans les cours d'école il y a peu d'arbres ou il y a peu d'herbes. Alors effectivement c'est peut-être pas pratique avec des enfants qui piétinent toute la journée, mais bon, n'empêche que la nature elle est pas très présente non plus. Et donc ma question c'était pourquoi on a déjà ces inégalités, et à l'inverse comment en fait ces aménagements qui sont déjà très genrés participent à cette construction sociale de genre.
Effectivement, les cours d'école, c'est quand même des micro-espaces publics dans lesquels on observe, enfin on voit que ces espaces publics-là sont inégalement appropriés. Et en fait, on regarde les cours de récréation, puis on voit que allez, 80% de la surface est occupée effectivement par soit un terrain de foot, soit un terrain de basket, qu'il a une position effectivement très centrale aussi dans la cour. Et en fait, ça laisse assez peu de place à d'autres activités, à d'autres usages. On voit que les filles sont évidemment bah, pas sur les terrains, mais à côté. Et en fait, on voit qu'il y a quand même une monopolisation de l'espace par les garçons à travers le sport. Et moi, je pense que c'est vraiment... la cour d'école, c'est vraiment le premier espace public que les enfants vont fréquenter, qui vont commencer à s'approprier. Et c'est vraiment le premier espace public dans lequel ils vont aussi remarquer qu'il y a des inégalités. Et je pense que c'est le premier sur lequel il faut intervenir, il faut travailler pour justement commencer à déconstruire ces inégalités-là. Parce que il faut le faire vraiment dès le plus jeune âge. Mmh. Puis on voit finalement que même quand les enfants jouent dans les cours d'école, puis même pendant les activités extrascolaires, il y a très peu d'équipes mixtes finalement. Donc je pense qu'il y a déjà cette construction-là des inégalités. Donc finalement, les petites filles qui voudraient par exemple aller jouer au foot ou faire du basket, le basket peut-être un peu moins, mais le foot, quand elles voient que les équipes sont composées de garçons, puis qu'on n'autorise pas forcément les filles à rejoindre une équipe de garçons, bah c'est compliqué. Je pense que c'est dès le plus jeune âge, on remarque tout ça. Ouais.
Bon, et bien du coup, maintenant qu'on a fait un petit état des lieux des inégalités, on va s'intéresser aux solutions, parce qu'il y a quand même des solutions qui sont mises en place. Aujourd'hui, du coup, selon toi, dans ta pratique, peut-être que ce soit à Lyon ou même au Canada où tu résidais avant, est-ce qu'il y a des solutions pour voir disparaître, voire diminuer en tout cas les inégalités?
Moi, je pense que la priorité aujourd'hui... c'est d'arrêter d'ignorer qu'il y a des inégalités. C'est vraiment de les mettre en lumière et puis de prendre conscience en fait que oui, il y en a et qu'il faut commencer à travailler dessus. Je pense que le secteur de la fabrique urbaine, il est encore beaucoup trop peu investi par cette question-là, par toutes ces questions d'inégalités de genre. Et il y a quand même certains points sur lesquels on peut, je pense, travailler. Puis en tant qu'acteur de la fabrique urbaine, surtout, l'idée, c'est vraiment de, je pense, changer la manière de travailler, de faire les choses, dans le sens où il faut vraiment qu'on commence à beaucoup plus écouter les personnes qui vont subir ces inégalités, à savoir les femmes. Et il faut vraiment qu'on soit plus dans l'observation, plus à l'écoute de leurs besoins, qu'on commence un peu à interroger les pratiques, puis à comprendre aussi les usages qu'elles vont faire de l'espace public, comprendre un peu comment elles se sentent dans l'espace public, leur expérience, leur ressenti. Et en fait, ça va permettre d'améliorer donc à la fois leur qualité de vie et aussi peut-être leur pratique de l'espace public. Donc ça, c'est un job de designer.
C'est ça, on compte sur toi. Et pour peut-être avoir des exemples un peu concrets, est-ce que toi, tu aurais des exemples d'aménagements qui ont été mis en place, qui rendent justement la ville plus inclusive? Alors, on parle d'hommes et femmes, de femmes notamment, mais ça peut être aussi des personnes en situation de handicap, ou des enfants, ou des personnes âgées. Enfin, est-ce qu'il y a aujourd'hui, des exemples en tête d'aménagements qui ont été pensés pour rendre la ville plus vivante, vivable?
Je sais qu'il y a les choses changent, les mentalités évoluent un petit peu. Il y a quelques projets qui commencent à se faire. Je pense qu'on adopte de plus en plus une approche genrée dans les projets urbains. Puis je pense que c'est, de toute façon, ça va devenir obligatoire, puis c'est nécessaire. La ville de Paris avait fait le projet, je sais plus en quelle année c'était, je pense que c'était il y a déjà bien 5 ans, Réinventons nos places. Donc l'idée, c'était de réaménager une dizaine de places à Paris, justement en intégrant un peu plus cette approche genrée, donc en faisant des diagnostics un peu plus axés sur cette question de genre, donc peut-être d'aller écouter un peu plus de public. Mais je pense qu'aujourd'hui, la priorité, si on veut vraiment commencer en fait à concevoir des espaces publics qui soient beaucoup plus inclusifs et accueillants, pour tous, hein, pas uniquement les femmes, l'idée, c'est vraiment de mobiliser et d'impliquer tous ces publics-là dans en fait la conception de l'espace public, puis dans la prise de décision. Il faut vraiment aller à leur rencontre.
Et ça, ces concertations, ces réunions publiques, et ça se fait pas pour l'instant?
Ça se fait, oui, je pense que ça se fait. Le problème, c'est que c'est des réunions qui vont peut-être pas toucher tous les publics, dans le sens où c'est des réunions peut-être qui vont avoir lieu dans une salle, dans une mairie ou quelque chose comme ça. Il y a forcément des gens qui pourront pas s'y rendre parce que l'horaire ne convient pas ou parce que c'est difficile d'accès, je sais pas. Mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour inclure tout le monde, même les personnes âgées. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font de manière digitale. Il y a des personnes âgées qui sont pas capables d'utiliser ces outils-là. Donc il faut vraiment qu'on pense en fait à tous les publics. C'est pas uniquement les hommes, les femmes, c'est les personnes âgées, c'est les personnes à mobilité réduite, c'est tout le monde.
par rapport à l'espace public, on s'était questionné sur bon, il y a le côté évidemment les usagers, donc les citoyens, les citoyennes, mais du coup il y a les collectivités en fait qui gèrent. Alors tu peux me corriger ou préciser, nous expliquer comment ça fonctionne, mais voilà, les collectivités qui s'occupent en fait de l'espace public urbain et du coup qui font des commandes publiques aussi quand il faut faire des aménagements, des travaux, des choses comme ça. Tu donnais l'exemple de la ville de Paris qui a voilà travaillé sur des places, voilà. Donc finalement, toi, à ton niveau d'information, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la commande publique sur ces sujets-là, et est-ce que les inégalités en fait de genre sont prises en compte dans par exemple le cahier des charges des collectivités quand elles ont besoin de faire des aménagements X ou Y en ville?
Mais je pense que c'est des questions qui sont de plus en plus prises en compte par les pouvoirs publics en France. Je pensais justement récemment à Lyon, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est la ville de Lyon qui a fait installer des toilettes sèches sur 7, je crois qu'il y a 16 zones, 16 zones en déficit de sanitaire justement, en fait pour garantir un meilleur accès à l'hygiène pour tous, donc que ce soit les femmes, les personnes à mobilité réduite, parce qu'on est quand même confronté à ce genre de manque de structure dans l'espace public urbain, je trouve. Et en fait leur idée c'est vraiment de déviriliser l'espace public, puis de vraiment concevoir un espace public qui soit beaucoup plus accueillant pour tous, pas uniquement pour les hommes. Et je trouve que la ville de Lyon a une approche genrée, enfin ça change en tout cas là-dedans, je trouve, dans ce domaine-là. Il y a plein de villes, en fait, qui ont adopté cette approche-là. Il y a la ville de Bordeaux, en 2010, qui avait publié une étude, justement, qui s'appelait « L'usage par le genre », il me semble. En fait, ils faisaient un petit bilan de comment les femmes pouvaient se sentir dans l'espace public. Donc, ils avaient vraiment donné la parole à des femmes, puis ils les avaient interrogées sur leurs ressentis, leurs expériences dans l'espace public urbain. Puis, ils les avaient aussi invitées à participer un peu à la construction du changement. Je trouve que la question de l'inclusion est beaucoup plus présente maintenant. Donc forcément, ça prend en compte l'approche du genre, la question des genres là-dedans. Mais je trouve que oui, on parle beaucoup plus d'inclusion, d'espace public inclusif et de choses comme ça. Maintenant, pour ce qui est de la question du genre précisément, moi, j'ai rien vu pour l'instant. Je pense qu'on est vraiment à une étape en fait où on commence à prendre conscience. On fait un peu l'état des lieux de ce qui se passe. Et puis oui, comme je disais, on met en lumière en fait ces inégalités, puis après on va commencer peut-être à travailler là-dessus. Mais je pense que pour l'instant, on est encore à un stade où on commence à... On fait le bilan, en fait.
Oui, on fait le bilan et au mieux, il y a des choses sur l'inclusion, et c'est pas spécifiquement sur les inégalités femmes-hommes, quand bien même ça en fait partie.
Oui.
Mais voilà, donc... ok, top, bah, merci pour l'info. Et du coup... en face de cette commande publique, il faut qu'il y ait des prestataires, des fournisseurs. On pense notamment du coup aux cabinets, aux agences d'urbanisme, les archis, voilà, des métiers qu'on a évoqués en début d'épisode. Ces métiers-là qui répondent à la commande publique sur l'espace public urbain, est-ce que on voit aussi plus de femmes finalement dans ces métiers-là? Parce que quand tu as annoncé tout à l'heure que les femmes peuvent faire une école d'archi depuis les années 70, ça fait un peu mal. C'est assez inquiétant quand même de se dire que c'est vraiment récent. J'avais pas notion de ça et c'est vrai que ça pille un peu. On en est où aussi dans ces métiers-là par rapport à la place des femmes et aussi à leur position, on va dire, dans les postes et les responsabilités associées, parce que si elles sont cantonnées au secrétariat ou à l'assistanat ou ce genre de choses, bon, le pouvoir de décision est un peu plus faible quand même. Donc voilà, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces métiers-là aussi qui répondent à la commande publique, où sont les femmes un petit peu?
Ouais, bah en fait, quand je disais je crois que c'est 1968. Donc là, avant 1968, elles n'avaient pas le droit en fait de faire des écoles d'architecture, mais elles avaient quand même accès à certains métiers. Mais quand je disais ça, c'est que oui, elles avaient accès à certains métiers de la fabrique urbaine, mais c'était vraiment, comme tu disais, donc c'était le secrétariat, c'est des postes qui étaient très bas finalement. Et en fait, à partir de 68, elles ont commencé à intégrer les écoles d'architecture, et puis elles ont commencé après ensuite à faire carrière un peu dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 40% des personnes qui sont diplômées des écoles d'architecture européennes qui sont des femmes. Par contre, on voit qu'elles sont encore trop peu à diriger leur propre agence. Parce que bah, il y a une charge de travail qui est quand même assez conséquente, il y a des horaires de travail qui ne sont pas forcément compatibles non plus avec le rôle de mère que doit avoir une femme. Donc je pense que les choses changent, parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus de femmes, mais elles sont encore trop peu à des postes
à responsabilité
puis là où il peut y avoir vraiment des prises de décision importantes.
Ok, bon, bah, il y a du boulot aussi, et les femmes, il faut y aller, quoi.
C'est ça. Exactement. On avait une dernière question sur la ville écologique ou ville durable. On se demandait, parce qu'on a entendu tout et son contraire sur la ville durable, et notamment par des exemples comme, l'éclairage urbain qu'il faut diminuer, pour rendre une ville plus plus écologique, plus économe. Du coup, effectivement, ça met les femmes dans une situation où, comme on l'a dit tout à l'heure, rentrer seule la nuit quand il fait noir, en plus dans des rues non éclairées, c'est pas hyper safe. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que vraiment la ville de demain, pareil pour l'histoire de la mobilité, mettre plus de vélos, oui, mais on fait quoi, des enfants, des courses, on met tout le monde sur un vélo, ça devient compliqué. Donc voilà, est-ce que selon toi, la ville de demain, qui voudra plus écologique, durable, est-elle aussi féministe?
Alors, est-elle, je sais pas, elle devrait, je pense, ouais, l'être. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, enfin en tout cas, l'idée, c'est vraiment pas d'éradiquer la présence masculine dans l'espace public puis dans la fabrique urbaine, c'est de temporiser un petit peu ça, c'est de donner la possibilité aux femmes d'accéder à des métiers de la fabrique urbaine, puis de s'approprier en fait l'espace public urbain de la même manière que les hommes. Moi, c'est comme ça que je vois la ville, une ville féministe en tout cas, enfin une ville écologique et féministe. C'est une appropriation égale des espaces publics urbains, puis c'est aussi un accès égal à tous ces métiers de la fabrique urbaine. Donc c'est une question de parité. Peut-être que pour concevoir des espaces publics qui soient beaucoup plus, accueillants pour les femmes, c'est vraiment en fait d'aller dans la rue puis d'interroger les femmes en leur demandant qu'est-ce qu'elles aimeraient voir par exemple dans l'espace public, comment est-ce qu'elles aimeraient que l'espace public soit, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise et puis pour qu'elles puissent se l'approprier de manière normal. Oui. Je pense que c'est vraiment aller à la rencontre des femmes.
Ouais, qu'on nous donne un peu la parole et qu'on nous écoute, quoi. Ça me plaît bien comme idée. C'est un bon point de départ.
C'est ça.
Merci beaucoup, Inès, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé toutes ces informations sur les inégalités femmes-hommes qu'on peut rencontrer dans l'espace public urbain et de nous avoir aussi proposé des solutions et des perspectives réjouissantes et encourageantes, en tout cas, pour rendre cet espace public accessible et inclusif pour toutes et tous. Merci à toi.
Merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marquée dans notre échange avec Inès, c'est de découvrir que les écoles d'architecture ne sont ouvertes aux femmes que depuis 1970 environ. En fait, c'est hyper récent, c'est vraiment hyper récent. On oublie en fait qu'il y a encore tout un tas de sujets où les femmes ont eu accès tard à des choses, des sujets, des métiers, le droit de vote, tout ça. Finalement, on se rend compte que c'est assez récent. Et la thématique finalement du design urbain, de la fabrique de la ville et les métiers du coup qui en découlent, finalement n'échappe absolument pas à un héritage patriarcal, clairement, qui est très ancien pour le coup. Donc c'est des années, des siècles de domination patriarcale, et ça, c'est assez choquant, je trouve. Moi, ça m'a vraiment interloquée parce que c'est un exemple parmi tant d'autres qui met bien en lumière les inégalités femmes-hommes dans tout un tas de secteurs d'activité, mais aussi dans les usages, et notamment ici dans les usages des espaces urbains et des aménagements
urbain, et il est nécessaire, comme le signalait Inès, que ces métiers-là, mais aussi la commande publique, finalement, se saisissent des inégalités femmes-hommes pour construire une ville qui soit plus accueillante et plus inclusive. Et voilà, j'ai hâte de découvrir plus ce sujet et de creuser un peu cette thématique, parce que vraiment, ça m'a assez interpellée.
De mon côté, ce qui m'a frappée, c'est vraiment de me rendre compte que finalement, la rue, la ville, l'espace public est une reproduction finalement des inégalités qui existent dans la société. C'est vraiment le reflet de ces inégalités-là qu'on retrouve de partout. Et je trouve que c'est très juste quand elle parle, voilà, qu'il faut donner la parole aux femmes, à tous les publics pour prendre en considération leurs besoins, leurs utilisations de l'espace public. Parce que finalement, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi à travers ce podcast, c'est de se dire, bah voilà, donner les clés pour avoir une autre vision, pour ouvrir les yeux d'une autre façon sur ce qui nous entoure, sur notre travail, sur les choses du quotidien. Et j'espère qu'on aura réussi à faire ça à travers ce podcast, c'est vraiment de donner envie de creuser ce sujet et de se rendre compte qu'en fait, quand on arpente les rues et quand on s'assoit sur un banc public ou dans un parc, finalement, c'est pas vraiment anodin. Tout ça aussi a été designé d'une certaine façon, et que même dans cet espace-là, on n'est pas l'égal des hommes en tant que femme. Et voilà. Et juste le fait de s'en rendre compte, je trouve que c'est déjà assez puissant, et ça peut nous permettre petit à petit, effectivement, de faire changer les consciences et de faire changer les choses concrètement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.